Bonsoir à chacun et à chacune. Et que le bon nom du Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver sous son regard. On va faire trois lectures, s'il vous plaît. La première dans le proverbe premier. Ce proverbe commence avec des conseils. Comment connaître, comment comprendre, comment recevoir, comment donner. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qu'il faut donner, comment recevoir? C'est important pour vous? Eh bien, le livre des proverbes commence avec cet enseignement-là. Proverbe, chapitre 1, verset 2. Proverbe, chapitre 1, verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Dans l'évangile de Marc, le Seigneur Jésus a commencé à les apprendre. Il nous est dit dans Marc chapitre 8, verset 31, évangile de Marc, chapitre 8, verset 31. Le Seigneur les a amenés dans ses voies, il voulait qu'ils apprennent. On le voit bien au verset 31, Marc chapitre 8, verset 31. Je ne sais pas comment vous avez vous dans votre version, mais moi j'ai « Alors il commença à leur apprendre ». Donc, vous voyez, c'était le début de la formation des pasteurs. Il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Cette phrase, on la voit souvent dans les évangiles. On la voit, Dieu, Jésus, voulait leur apprendre cela. Mais au verset 32 du chapitre 9, on voit que ça ne s'est pas toujours bien passé. Regardez, mais les disciples... C'est la même parole, hein, verset 31. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Et ils craignaient de l'interroger. J'espère que vous n'avez pas la peur d'interroger le Seigneur par rapport à toutes les questions que vous vous posez. Le titre de ma prédication ce matin, c'est sur le repos, c'est « Apprendre à faire confiance ». Car je sais, hélas, que beaucoup de chrétiens, même s'ils aiment le Seigneur et même s'ils croient en Dieu, n'ont pas appris à lui faire confiance. Alors, les choses spirituelles, il faut les apprendre. On vient de le lire dans Marc, Jésus voulait les apprendre. Dans le livre des Proverbes, qu'est-ce que vous avez lu? Si on veut comprendre, recevoir, etc., donner, il faut apprendre, il faut écouter. C'est un problème, ça, que beaucoup entendent, mais ils n'écoutent pas. Alors, beaucoup écoutent, mais n'entendent pas, en fonction de ce que l'on lit. Mais c'est un vrai, vrai, vrai problème. On est capable d'entendre quelque chose, mais de ne pas écouter ce que vraiment ça veut dire. Alors, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui vraiment il écoute? Eh bien, il apprend. Voilà, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui écoute? On dit de certaines personnes, tiens, elle est enseignable. Elle est enseignable. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a envie d'apprendre, donc elle apprend. Alors, est-ce que vous croyez que tout s'apprend? Je crois qu'il y a une seule chose qui ne s'apprend pas, c'est l'adoration. Bien sûr qu'on peut apprendre à formuler un verbe. J'adore, j'exalte. Mais l'adoration, je crois que ça ne s'apprend pas. On peut apprendre des formules, des cantiques. Mais je crois que l'adoration, c'est quelque chose de spontané. Ça sort du cœur, ça s'apprend. Bien sûr, on apprend des cantiques. Mais je crois que s'il y a une chose qu'on n'apprend pas, qui est vraiment le débordement de notre reconnaissance, c'est l'adoration. Mais après, tout le reste s'apprend. Je prends quelques versets. Regardez Paul ce qu'il dit. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Vous voyez, il a appris. Est-ce que vous avez connu la disette? Est-ce que ça vous est arrivé de connaître des moments difficiles? Donc, vous avez appris certaines choses. Est-ce que vous, par la grâce de Dieu, est-ce que vous avez l'abondance? C'est possible aussi. Bon. Et bien, vous voyez, tout ça, ça s'apprend. Paul dit, j'ai appris, Philippiens 4, 11, j'ai appris à être content dans l'état où je voyais. Même le fait d'être content, ça s'apprend. être reconnaissant. Tiens, quand on répète continuellement que c'est bien d'avoir un lieu de culte chauffé, c'est une façon d'apprendre à être content. Peut-être que tout à l'heure, vous allez rentrer dans votre chambre, chauffer avec votre couette. Si on vous dit « remerciez le Seigneur », c'est une façon d'apprendre aux gens à être contents. Ça s'apprend. Il y a des gens qui sont continuellement dans le mépris. Ils ne sont jamais dans la reconnaissance. Vous avez vu comment c'est pénible l'enfant qui ne dit jamais merci ? Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas dire merci au Seigneur. Vous avez appris, c'est Paul qui le dit aux Thessaloniciens, vous avez appris à vous aimer les uns les autres. Tiens donc, est-ce qu'on peut apprendre à s'aimer davantage ? Eh bien, bien sûr. Est-ce que c'est important d'aimer les gens ? C'est important ? Eh oui, on apprend à aimer les uns les autres. Il dit à Timothée qu'ils apprennent à exercer la piété envers leur famille. Vous voyez ça ? Apprendre à exercer la piété. C'est ce qu'on est en train de faire. On apprend à exercer la piété, car ce qu'on apprend est conforme aux Saintes Écritures. Tite 2.4, apprend aux jeunes femmes à aimer leur mari. Vous entendez les jeunes épouses ? Apprendre, il faut apprendre à aimer leur mari. Oui, vous entendez ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que c'est important ? Eh oui, mais c'est réciproque. Un homme doit apprendre à aimer son épouse. Eh oui, ça, vous voyez, tout s'apprend. Ce sont des choses qui sont très sérieuses. David dira, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Vous vous rendez compte, si vous avez une concordance, prenez le verbe apprendre et regardez tout ce qui est dit. Voyez, on a lu dans Marc 8, il commença à leur apprendre qu'il fallait qu'ils souffrent beaucoup, etc. Il fallait qu'ils l'apprennent. Mais ça va beaucoup plus loin. Le Seigneur Jésus, qui était saint, sans péché, sans tâche, rien, il est dit qu'il a appris l'obéissance, bien qu'il fût fils, par les choses qu'il a souffertes. Donc, on peut aller très loin dans cette question d'apprendre. Vous voyez, ce n'est pas une question d'avoir fait des progrès dans la sainteté. Ah, moi, je n'ai plus besoin d'apprendre. Même Jésus, le Fils de Dieu sans tâche, a dû apprendre l'obéissance par la souffrance. Donc, on comprend, vous voyez, si on va crescendo, que Dieu veut que l'on apprenne. Et ça, d'ailleurs, je pense que votre présence dans ce lieu, en plus de ceux qui sont venus pour prier, la présence de ceux qui viennent à la réunion, c'est parce que vous avez envie d'apprendre à mieux connaître le Seigneur. Apprendre à connaître les promesses de Dieu. Apprendre à faire confiance, afin que nous soyons des chrétiens bénis. Et quand on est béni, on bénit également les autres. Alors, je voudrais prendre avec vous ce soir, pendant 20 minutes, le psaume 23. Vous le connaissez, le psaume 23 ? Vous le connaissez bien ? Comment ? On peut le connaître, oui. Le psaume 23. Alors, je pense, je l'ai déjà dit dernièrement, que bien des promesses, bien des psaumes, nous sont devenus tellement familiers qu'ils en ont perdu la signification. Voyez, on va le lire en enterrement parce que bon, le psaume 23, c'est le psaume approprié. Oui, souvent, dans les enterrements, on prend le psaume 23. Dans les cimetières, dans les temples, on prend le psaume 23. Mais j'ai remarqué, en m'entretenant avec les chrétiens, que beaucoup de promesses, beaucoup de promesses, sont tellement connues, tellement familières, qu'elles en ont perdu la signification. Et ça, c'est un problème. Alors, ce psaume 23, on va le lire alors. On va le lire. Cantique de David. Bon, entre parenthèses, vous pouvez mettre à côté votre prénom, si vous voulez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors, beaucoup de psaumes, vous l'avez remarqué, sont écrits à la première personne du singulier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, je trouve que c'est excellent, c'est beaucoup plus facile de s'approprier un psaume lorsqu'il est écrit à la première personne du singulier. Vous ne trouvez pas que c'est mieux ? C'est bien comme ça. Vous pouvez vraiment, facilement, vous l'approprier. Alors, mais ce psaume que vous connaissez par cœur, combien de fois l'avez-vous lu ? Combien de fois l'avez-vous entendu ? Sérieusement, est-ce que ce n'est pas le psaume que vous avez le plus entendu ? Si, même avant, peut-être, c'est peut-être le seul psaume que vous aviez entendu avant votre conversion. Moi, je crois que c'est le seul texte que je savais qu'il existait dans la Bible avant ma conversion. Vous voyez, pour vous dire. Mais, voilà, ce psaume parle du fait, par exemple, que Dieu nous connaît, puisqu'on s'approprie, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous connaît personnellement? Est-ce que vous en êtes sûr? Hier, un chrétien me disait, il me parlait de sa femme, il me disait, ma femme, qui est chrétienne, ma femme, elle se demande si Dieu ne l'a pas abandonnée. Et il ne riait pas. Oui, bon, alors on n'a pas jugé, on ne sait pas l'épreuve qu'elle traverse cette femme, mais quand on est convaincu que Dieu nous aime d'une manière personnelle, qu'il vous connaît, est-ce que Dieu vous connaît vraiment? Et oui, il vous connaît. Est-ce que vous croyez qu'il vous aidera? Parce que vous savez, moi j'ai vu des gens me dire, oh moi le psaume 23, c'est mon psaume préféré. Et puis douter que Dieu va les aider. Pourtant ce psaume, si on devait lui donner un titre, on pourrait lui donner un titre, Dieu m'aidera. Ou je ne sais pas, Dieu m'accompagnera, etc. Donc, lorsque vous avez appris certaines choses, c'est important. Vous regardez Paul, on a lu quelques textes de Paul, mais ce que Paul a appris, qu'est-ce qu'il fait? Il le partage aux autres. Et n'oublions pas que quand on a confiance à Dieu, le but, c'est que nous apprenions aux autres à faire confiance. C'est pas possible autrement. Lorsque Dieu nous console, c'est pourquoi? C'est pour que nous consolions les autres. Lisez-le avec moi. Je prends ce texte parce qu'il m'est venu à l'esprit en préparant la prédication. Dans 1 Corinthiens au chapitre, dans 2 Corinthiens au chapitre 1er, quand il est dit que Dieu est le Dieu de toute consolation, voilà. Vous le croyez ça que Dieu console? J'espère que vous le croyez. Si vous n'avez pas consolé avec toutes les déceptions qu'on a eues, vous n'en avez pas eu des déceptions, des tristesses? Voilà, il s'appelle au verset 3 le Dieu de toute consolation. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 4 et le verset 5. Qui nous console, s'il est le consolateur, il ne peut pas faire autrement que de nous consoler. Mais on peut refuser la consolation. J'en ai parlé dans le repos il y a quelques mois ou quelques semaines. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc, je suis dans l'affliction, je traverse ce moment de deuil, par exemple. Je peux m'attendre à la consolation du Seigneur. Cette consolation va me consoler et à mon tour, je pourrai consoler les autres. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, mais moi, tu sais, je te comprends. Moi aussi, j'ai traversé telle épreuve. Hein. » Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont pouvoir consoler. Parce que ce n'est pas parce qu'on a traversé une épreuve qu'on a été consolé. Est-ce que vous comprenez? Et on ne peut consoler quelqu'un que si on a reçu cette consolation de la part de Dieu. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des chrétiens qui disent « Oui, mais moi, tu sais, moi, je te comprends, j'ai traversé telle épreuve. » Ils peuvent vous comprendre, ils ne peuvent pas vous aider. Et le but de la confiance, car vous avez vu, on alterne entre le service en ce moment et la confiance, c'est que nous soyons persuadés que la volonté de Dieu, on vient de le lire, ça soit de vivre certaines choses pour qu'à notre tour, nous puissions les communiquer aux autres. Est-ce que c'est important pour vous de communiquer aux autres? Quelqu'un aujourd'hui me disait « Ah, moi j'ai servi, j'ai fait du bien, ah ça m'a fait plaisir de... » Pourtant, c'est une personne qui est fatiguée, qui a servi Dieu. Elle me disait « Mais j'ai eu beaucoup de joie à servir. » Mais voilà, quand on a reçu, on a envie de donner. C'est exactement la signification. Attendez-vous à recevoir. On apprend les choses. Votre présence est la preuve que vous avez envie d'apprendre, que Dieu vous bénisse. Donc la première parole de ce psaume, on va le subdiviser. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais enfin, on va vite faire. On va voir si on le connaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bon, si vous deviez prendre un petit papier, un débat, qu'est-ce que vous mettriez de cette parole? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis sûr que chacun, vous mettriez une pensée différente. Qu'est-ce que vous, Jérémy, qu'est-ce que tu mettrais? Dieu est riche, voilà. Michael, qu'est-ce que tu mettrais? Pas de raison de s'inquiéter. Jonathan, qu'est-ce que vous mettriez? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chacun mettrait une parole différente, à peu près, non? Oui ou non? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour apprendre, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous savez, moi, il y a des gens qui me disent « Ben, ça veut dire ben, ce qui est écrit. » Ça veut dire, vous voyez. Vous savez, la parole, c'est comme la nourriture. Je ne vous apprends rien. C'est quand même écrit souvent que la parole de Dieu, c'est comme du pain. Hein, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Bon, il faut le pain, il faut l'avaler, le mastiquer, enfin, bon, le digérer, le ruminer. C'est l'enseignement des ruminants dans le Lévitique qui représentent les animaux purs parce qu'ils ruminaient et donc ça leur permettait, bon, c'est pas très gracieux de régurgiter pour, mais enfin, bon, ça indique qu'on prend du temps pour méditer ce que l'on a reçu. Là, je suis en train de vous donner à manger, vous pouvez prendre des notes et le ruminer et le méditer. Donc, vos pensées après sont imprégnées de la pensée du Christ. Est-ce que vous comprenez? Car le but, c'est que nos pensées soient captives à l'obéissance du Seigneur. Notre but, c'est que notre esprit soit envahi par la pensée. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai regardé furtivement les informations et je suis tombé sur l'Assemblée nationale qui venait de voter le mariage pour les homosexuels. Et tout le monde applaudissait dans l'hémicycle et souriait. Je me suis dit, les pauvres. Enfin, je pense qu'on peut commenter ça. C'est pas la peine de le commenter longtemps. Mais vous êtes d'accord que ça fait pitié, vraiment. Moi, franchement, ça m'a fait pitié. Je suis dans mon bureau, j'ai lu, et puis quand je me suis couché, je voyais la tête de ces députés. Et j'ai pensé au péché, vraiment, au péché. J'ai dit, mais le péché. Et puis, ce verset est venu dans mon esprit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et pendant une heure dans mon lit, j'ai préparé la prédication de dimanche. J'étais envahi et je sais que je ne me suis pas laissé dominer parce que ça fait mal quand même, disons-le comme c'est quand même. Franchement, on n'avance pas. Bon, on sait que ça doit arriver, on sait que c'était prophétisé, mais en fait quand même, on ne peut pas y être insensible. Et d'un côté, moi franchement, ça me faisait pitié de les voir applaudir, de les voir rire, d'avoir gagné sur la proposition de cette loi. Mais moi je crois que si le péché, comme dit la version Darby, se multiplie, la grâce peut surabonder. Vous le croyez? Et le but de ce qu'on est en train de faire, c'est cela. C'est que la parole de Dieu que nous ruminons nous enseigne à amener nos pensées captives. Comme ça nous avons cette grâce de surmonter le mal par le bien. Parce que vous savez, comme je l'ai dit dernièrement, il n'y a pas que le péché qui nous éloigne de Dieu. Nos pensées négatives peuvent nous éloigner du Seigneur. Et on n'y réfléchit pas toujours. Vous savez, moi, c'est un vrai sujet, un cas de conscience, de voir tant de chrétiens qui sont découragés, qui sont dans la crainte. Vous voyez, moi, je ne voulais pas m'endormir avec cette image de ces députés en train d'applaudir par rapport au vote de cette loi perverse. Je voulais m'endormir avec la grâce de Dieu. Et je suis persuadé que le Saint-Esprit, parce que j'ai médité ces versets, comme nous apprenons à le faire en ce moment, m'a aidé et je me suis endormi, je vous assure. Je disais à ma femme ce matin, hier soir, je me suis couché rassasié. Je vous assure, pendant une heure, j'ai médité la parole de Dieu, j'étais dans mon lit, quelqu'un aurait pu croire que je dormais, et bien j'étais comme dans mon bureau, vous aurez le résultat normalement, dimanche matin, je vous assure. Voilà, nos pensées, veillez sur nos pensées. L'Éternel est mon berger, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce que je le vis? Est-ce que je vis cette vérité? L'Éternel est mon berger. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'un a dit que ça veut dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Que Dieu était riche. Voilà. Moi, j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Que le Seigneur, il agit pour moi. Le Seigneur, il agit pour moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça sous-entend que le Seigneur s'occupe de nous. On pourrait mettre, entre parenthèses, voilà. Le Seigneur s'occupe de moi. Puisqu'il est mon berger. Et que je peux dire que je ne manquerai de rien. Donc si je ne manque de rien, c'est qu'il va s'occuper de moi. Ça veut dire qu'il travaille pour moi, qu'il fait concourir toute chose à mon bien. Est-ce que vous le croyez? C'est ça que ça veut dire. Et moi, je voudrais vous aider. Peut-être qu'après, vous pouvez prendre les autres versets et le faire à votre tour. Car je crois qu'on a reçu certaines choses, on a appris certaines choses. Vous voyez, Jésus leur parlait pour qu'ils apprennent. Moi, je suis en train de vous parler, de vous prêcher, pour que vous appreniez à apprendre à faire confiance en Dieu. Vous pouvez avoir cette conviction que Jésus est votre berger, que vous ne manquerez de rien. Un berger, il sait ce que la brebis doit manger. Vous le savez, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Je ne parle pas de la nourriture physique. Je parle de tout ce qui rentre par nos yeux et par nos oreilles. Est-ce que vous veillez à ce que vous mangez? Quand vous regardez la télévision, vous mangez. Vous pouvez, quand vous entendez quelque chose, vous mangez. Vous entendez une chanson, quelle qu'elle soit, vous mangez. Votre âme se nourrit. Et il faut faire attention à ce que nous regardons. Mais le Seigneur, il sait. Il sait très bien ce dont on a besoin avant même qu'on le lui demande, c'est écrit. Il prévoit toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça fait pitié de voir tant de chrétiens qui aiment ce psaume et qui sont incapables de faire confiance à Dieu. Il le sait, le Seigneur, au moment où il le faut, ce dont vous aurez besoin. Est-ce que Dieu savait que le 5 février 2013, vous seriez assis 9 rue Saint-Guillaume? Est-ce que Dieu le savait? Il y a 50 ans, est-ce que Dieu le savait? Vous êtes sûr? Eh oui, puisqu'il est tout puissant. Tout puissant, ça veut dire qu'il peut tout et qu'il sait tout. Bon, nous devons comprendre ça. C'est pour ça que des chrétiens s'éloignent de Dieu. Parce que quand même, je pense que ça va. Vous vous êtes tous posé des questions. Pourquoi des gens s'éloignent de Dieu? Pourquoi des gens rétrogradent? Oui ou non? Vous vous êtes jamais posé la question? Moi, c'est certainement une des premières questions que je me suis posée quand j'ai expérimenté la grâce de Dieu, donc à peu près une heure ou deux après ma conversion. Je me suis dit, mais comment on peut abandonner un Dieu pareil? Parce que j'ai posé des questions de suite. Et on m'a dit, il y a des gens qui abandonnent Dieu. Pour moi, c'était quelque chose d'impossible d'abandonner Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, c'était impossible que quelqu'un puisse abandonner Dieu. Puis moi, j'ai compris que nos pensées, également, peuvent être très, très loin de Dieu. Mais vous devez lui faire confiance. J'espère que vous pouvez vous approprier ce psaume, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si vous refusez de croire, en vérité, vous refusez de lui faire confiance. Quel dommage, quel dommage. Alors, il y a des personnes qui disent, parce que je l'entends, oui, mais vous dites souvent, ne vous inquiétez de rien, d'accord, mais l'inquiétude, ça n'a jamais rien changé. Alors ça, c'est une drôle de question. Une drôle de remarque que j'ai entendue. Ça m'a fait drôle même. Oui, d'accord, mais l'inquiétude, ça ne change rien. Et si ça change? Ça change notre façon de penser. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr que dans le cœur de Dieu, ça ne change rien, parce que Dieu veut toujours nous bénir. Mais ça change notre façon de penser. Et celui qui s'inquiète, en vérité, il s'éloigne de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous pousse à faire, l'inquiétude? Tiens donc, qu'est-ce que l'inquiétude nous pousse à faire? Allez, aidez-moi. Voilà, elle nous pousse au découragement, à faire les choses par nous-mêmes. Oui, est-ce que quelqu'un qui est inquiet dit, bon, ben, de toute façon, j'ai qu'à faire les choses par moi-même. Voilà, c'est comme ça qu'on lutte contre la chair et le sang. Alors, c'est vite fait de dire, mais l'inquiétude, ça ne change rien. Eh bien, c'est totalement faux, parce que l'inquiétude, ça change tout, absolument tout, parce qu'on veut prendre les choses en main. Eh bien, c'est, je vais le régler, il s'est passé ça, eh bien, bon, je vais m'en occuper. Alors que la Bible dit, mais ne pas lutter contre la chair et le sang. Que la Bible dit, mais ne lutte pas, ne t'affaire pas, fais confiance au Seigneur, oui. Le problème de vouloir tout résoudre par nous-mêmes, c'est le résultat de l'inquiétude. J'ai lu une histoire vraie. J'ai lu cette histoire et je me suis dit, tiens, elle va bien avec la prédication. Dans une église, un jour, je ne sais pas si c'était une semaine ou un dimanche, on a demandé à ceux qui connaissaient le psaume 23 de le réciter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réciter le psaume 23? Alors, dans cette église, il y avait un acteur, un très grand acteur. Il s'est levé et il a récité le psaume 23. Et tout le monde a applaudi. Vous la connaissez, non? Tout le monde a applaudi. Et puis, il y a un vieillard avec sa canne qui s'est levé et il a récité le psaume 23. Et il y a eu un grand silence. Et le pasteur ne savait plus quoi faire. Et c'est l'acteur qui a pris la parole et qui a dit, oui, effectivement, moi je connais le psaume du bon berger par cœur. Mais le vieillard, lui, il connaît le berger. Et cette histoire, elle m'a plu. Parce que voyez, la façon dont l'orateur avait récité le psaume était émerveillante. Mais cet homme, ce vieillard connaissait le berger. Voyez, et c'est bien parce que ça nous permet de comprendre que l'on peut connaître un psaume par cœur et même s'appliquer à le réciter. Et puis, il y a des gens qui connaissent le berger. Et le but de nos réunions pour apprendre à faire confiance à Dieu, c'est d'apprendre à le connaître. Si c'est vrai, vous rendez compte, si c'est vrai, si vous pouvez dire ce soir, si vous pouvez tout à l'heure vous endormir et dire, mais c'est clair, le Seigneur Jésus qui a dit qu'il était le bon berger, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous pouvez le dire, est-ce que vous pouvez le dire, je ne manquerai de rien? Mais vous vous rendez compte? Parce que tout ça, ça peut être théorique, philosophique, religieux. Mais quand quelqu'un de tout son cœur peut dire « je ne manquerai de rien », est-ce que vous vous rendez compte de la bénédiction? Vous êtes heureux si vous pouvez dire « mais moi je ne suis pas un orateur, je suis ni un vieillard avec la canne, je ne suis pas un acteur, ce n'est pas grave. Mais je peux vivre, je veux le vivre, je sais que je ne manquerai de rien ». Voilà comment on apprend à faire confiance. Il est le berger. La deuxième parole de ce psaume. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Bon, si d'un côté on voit que Dieu a tout préparé, d'un autre, il ne peut pas faire autrement que de pourvoir à tous nos besoins. Est-ce que vous aimez les verts pâturages, les eaux paisibles? Est-ce que vous aimez ces endroits? Est-ce que spirituellement, ça représente quelque chose pour vous? Vous voyez? Parce que d'un côté, Dieu travaille, l'Éternel est mon... Je ne manquerai de rien, ça veut dire que Dieu travaille pour moi. La suite nous prouve que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Je vous ai déjà dit qu'il est impossible à une brebis de se coucher sur la pelouse, sur l'herbe, si elle n'a pas suffisamment mangé et si elle a peur. Si elle a peur. Tant qu'une brebis a peur, elle ne se couche pas. Il faut que le berger soit là, comme ça elle est tranquille. Moi, dans ma famille, il y a eu des bergers. J'ai acheté des bouquins sur les bergers. C'est impressionnant tout ce qui est dit, tout ce qu'on peut apprendre au travers des bergers et de leurs troupeaux. Mais il me fait reposer. Est-ce qu'on parle du repos? Voilà ce que Dieu veut. Une fois que l'on sait qu'il ne peut pas faire autrement que de travailler pour nous, une fois qu'on en a compris qu'il va pourvoir, il me dirige. Bien sûr, il faut se laisser diriger. Ce soir, peut-être que vous auriez préféré rester au lit. Il faisait du vent, de la pluie, il fait froid. Franchement, ça ne vous a pas trituré l'esprit si je me couchais de bonne heure. Moi, hier soir à 9h, j'étais au lit. Moi, je me couche tôt maintenant depuis que j'ai eu cet AVC. Et quelle joie. Mais vous avez pris la décision de dire, non, je veux aller dans la maison du Seigneur, partager la parole de Dieu. Je veux apprendre certaines choses. Oui. Un mouton ne se couche pas tant qu'il a faim. Un mouton ne se couche pas tant qu'il a peur. Quelle grâce de ne pas avoir peur, de savoir qu'il est là. Il est là, le berger, vous le savez? Il est là, il me fait reposer. Ça veut dire, je sais, il a tout préparé. Peut-être que vous vous demandez, ah, j'aimerais avoir ça. Des fois, ça nous démange, on aimerait avoir certaines choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une tentation. Ah, Seigneur, si tu me donnais ça, ah, qu'est-ce que je serais content. Mais Dieu pourrait vous répondre, si je te donne ça, ça va t'éloigner de moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais on le sait. On le sait, je me souviens d'une personne qui a compris ça le jour où son gamin de 7 ou 8 ans lui a demandé un Kalachnikov. Non, mais il y a des enfants. Eh oui, il voit tellement de trucs des armes. Il a demandé à son papa, « Papa, est-ce que tu pourrais m'acheter une Kalachnikov ?» J'en ai besoin. Pourquoi ? J'en ai besoin. Imaginez un enfant de 7 ou 8 ans avec une Kalachnikov. Est-ce que vous donneriez à votre enfant de 10 ans une Kalachnikov ? Mais si, bon, lui, il en avait besoin. Mais non, mais on entend de ces trucs. Eh bien, c'est exactement pareil. Des fois, on peut demander à Dieu des trucs. Nous, on pense qu'on en a besoin. Cet enfant, je ne sais pas ce qu'il avait vu. Je ne sais pas ce qu'il avait vu. Il en avait certainement besoin, mais je pense qu'il valait mieux qu'il n'en ait pas. Vous la lui aurez donnée, vous? Non. Vous aurez donné, vous, quand je dis comme à votre petit-fils dans le lit, là, armé? Non. Voilà. C'est pareil. Dieu sait ce qu'on a besoin. Vous pouvez lui faire... Est-ce qu'il est digne de confiance? Oui, il est digne de confiance. Il me conduit près des eaux paisibles. Des eaux paisibles. Tiens, les eaux paisibles. J'ai lu que... Les brebis n'allaient jamais se désaltérer près des eaux tumultueuses. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cause de leur poids et à cause de la laine, si elles tombent dans l'eau, elles se noient de suite. Parce que leur laine est tellement épaisse que si elle est de suite engorgée d'eau, eh bien, elle peut se noyer de suite. Le Seigneur, il le sait aussi qu'il faut qu'on aille. Il sait ce dont on a besoin. On a besoin de paix, près des eaux paisibles. Vous aimez la paix? On a besoin de paix. Dieu nous a créés pour que nous ayons la paix d'éternité. C'est quoi? C'est une paix éternelle extraordinaire. Il restaure mon âme. Tiens donc. Alors on peut écrire un livre là-dessus. Je pense qu'on peut écrire un livre. Il restaure mon âme. Alors c'est bien que Dieu pourvoie, c'est bien que Dieu travaille, c'est bien que Dieu pourvoie, mais c'est bien que vous sachiez que Dieu continuera tout le temps à vous aider. C'est bien ça de le savoir, parce que être aidé ponctuellement, c'est bien. Ah, j'ai fait une expérience. Ah, il y a 3 ans, j'ai fait une expérience. C'est bien, mais moi je pense que c'est quand même mieux de savoir que Dieu continuera toujours à nous aider. C'est bien d'être nourri, c'est bien d'être désaltéré, mais il nous arrive parfois d'être déprimé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, un moment de déprime, un moment de cafard, un moment de stress? Est-ce que ça peut arriver d'être abattu, de tomber? Est-ce que ça peut arriver? Eh oui, donc nous avons besoin qui pourvoit, c'est important de savoir qu'on a un Dieu qui pourvoit, mais nous avons un Dieu aussi qui nous restaure, parce qu'une brebis, elle ne fait pas que manger, elle peut aussi tomber. Est-ce que vous savez qu'une brebis peut tomber? Peut tomber, elle peut ne pas pouvoir se relever. On peut tomber dans un trou et une brebis, elle seule, ne peut pas se relever. Nous, quand on tombe, on se relève. Mais il y a des animaux, quand ils tombent, ils sont incapables de se relever. Est-ce que vous le saviez? Il y a plusieurs animaux comme ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un. Et le berger, il sait comment nous remettre sur pied. Nous, des fois, on ne sait pas trop. On dit aux gens, bouge-toi. Est-ce qu'on a toujours le tact pour aider les gens? Sérieusement. Quelqu'un qui est en pleine dépression, allez, bouge-toi. Vous voyez, nous, on sait les relever, les gens. C'est comme si on disait à quelqu'un qui a les deux jambes cassées, allez, cours! Moi, je crois que celui qui a les deux jambes cassées, il a envie de courir, mais il ne peut pas. Et heureusement que notre bon berger, il sait comment nous relever. Alléluia. Vous savez que Dieu sait comment vous relever. C'est pour ça, ne vous offusquez pas si quelqu'un s'y prend mal. Allez, lève-toi, bouge-toi. Mais Dieu, lui, il sait comment relever sa brebis. Il le sait. Il sait comment faire. Soyez près de lui. Parce que pour être à ses soins, il faut être à côté de lui. C'est évident. Ne soyons pas stupides au point de demander à Dieu qu'il nous aide alors que nous nous éloignons de lui. Ce ne serait vraiment pas sérieux. Mais enfin, on peut se retrouver par terre. Ça peut arriver. Le juste tombe. C'est écrit? Est-ce que c'est écrit? C'est écrit, Michael? Où c'est écrit? Où, dans la Bible. Le juste tombe 7 fois et 7 fois, l'Éternel le relève. Béni soit le Seigneur qui est là pour nous relever. Ne vous inquiétez pas comment il va s'y prendre, il le sait. Il peut permettre, je me rappelle cette sœur qui faisait que critiquer. Parce qu'il y avait des gens qui étaient hospitalisés. S'ils avaient la foi, ils n'auraient pas à l'hôpital, etc. Et un jour, elle a été hospitalisée. Et le pasteur a été la trouver et il lui a dit alors que cette opération, elle s'est bien passée. Oh, j'en ai eu 2 opérations, il lui a dit. J'ai eu 2 opérations. Ah bon? Eh bien oui, le chirurgien m'a opéré de la hanche, parce que c'est une hanche, et le grand chirurgien m'a opéré de la langue. Gloire à Dieu. Mais moi, je crois que Dieu sait ce qu'il doit faire pour qu'on se porte mieux. 4e parole. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Attention, c'est une parole qu'on n'a peut-être pas suffisamment bien expliquée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La justice. Là, on voit que ce psaume vraiment s'adresse à des chrétiens. On l'utilise souvent pour les païens, on se trompe complètement. C'est un psaume vraiment pour les chrétiens. Parce que la justice divine, exige qu'on ait fait une expérience avec Dieu. Quand on parle de justification, on a fait une expérience avec le Seigneur. Quand on est justifié, on cherche à avoir une relation juste avec Dieu. La Bible parle souvent des justes. Les justes croissent comme le palmier. Les justes, ce sont ceux qui ont été, bien sûr, justifiés et qui cherchent à avoir une vraie relation avec Dieu. Quelqu'un qui est justifié, il croit dans l'amour de Dieu, puisqu'il a été touché par l'amour de Dieu. Quelqu'un qui est justifié, est-ce qu'il croit au pardon de Dieu? Mais c'est évident. Est-ce qu'il croit à l'amour de Dieu? C'est évident. Vous voyez, les sentiers de la justice, c'est vraiment adressé à ceux qui ont fait une expérience que... Il est celui qui nous justifie. C'est important. Parce que si nous n'acceptons pas par la foi cette pleine justification, eh bien nous pouvons nous comporter exactement comme les païens. La justification, c'est quoi? C'est que Dieu a tout accompli pour nous. C'est pas vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose à payer? Est-ce qu'il y a quelque chose à mériter? Vous voyez, que Dieu pourvoit, que Dieu travaille pour nous, que Dieu nous relève, etc. Mais c'est important de savoir que tout ça, ce n'est qu'un effet de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, on ne l'a pas mérité, on ne l'a pas payé, c'est une grâce. Il nous a pardonné, c'est une grâce, c'est tout, c'est une grâce. Si nous sommes toujours en train d'essayer de mériter, ah, je vais faire des efforts. Il faut faire des efforts. Mais si je suis tout le temps en train de dire, oui, Dieu me bénira parce que j'ai fait des progrès, Dieu me bénira parce que je mérite, oh, ce que j'obtiens, je l'ai mérité. Regardez avec moi ce texte. Parce que vous savez, Dieu n'a pas besoin de notre propre justice. Mais beaucoup de chrétiens ont rétrogradé. Beaucoup de chrétiens se sont fourvoyés parce qu'il s'est passé exactement ce que l'on lit dans Romains au chapitre 10. Moi, c'est un texte que j'avais médité il y a longtemps lorsque j'avais fait une étude sur le zèle. Et cette étude, il faudrait la faire d'ailleurs. Romains chapitre 10, l'apôtre Paul parle des pharisiens. Et regardez ce qu'il dit. Certains chrétiens n'arrivent pas à avoir Jésus pour berger à cause de ce qu'on va lire. Parce qu'ils ont un gros problème avec la justice. C'est quand même écrit dans le psaume qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice. C'est important de savoir ce que c'est. Regardez, il parle des pharisiens. Romains 10, versets 2 et 3. Regardez bien. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Est-ce que c'est bien d'avoir du zèle? Mais regardez, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Alors si vous lisez ça pour la première fois, peut-être un petit peu que vous ne comprenez pas. Mais ça veut dire que si vous vous appuyez sur votre propre justice, sur votre propre zèle, sur vos propres efforts, vous n'aurez jamais besoin de la grâce de Dieu, puisque vous avez tout fait par vous-même. Et voilà pourquoi tant de chrétiens ont rétrogradé, ont chuté, se sont découragés, etc. Parce qu'ils s'appuient sur leurs efforts, sur leurs mérites. Voilà, c'est normal qu'on a ceci, j'ai persévéré. Mais tout est grâce, mes frères et sœurs. Est-ce que vous savez que tout est grâce? Tout est grâce. Tout est une question de grâce. Dieu n'a pas besoin de notre propre justice. Écoutez, avec ce qu'on vient de lire dans Romains, je pense que c'est suffisamment clair. Alors voilà, les gens deviennent irrités, les gens deviennent en rogne, voilà, parce qu'ils s'appuient sur leur propre justice. Vous savez, la propre justice, ça ne fait qu'une chose, ça détruit la foi. Alors que la grâce, ça la fortifie. Seigneur, conduis-moi dans les sentiers de la justice. Tu m'as pardonné, tu m'aimes, tu m'as gracié. Tout ce que j'ai, c'est un effet de ta grâce. Tout, c'est un effet de la grâce. On a pu venir ce soir? Est-ce qu'on est meilleur que ceux qui ne sont pas venus? Bien sûr, non? Non? Bon. C'est pas une grâce de Dieu? C'est une grâce de Dieu. Mais voyez, ça commence comme ça. Ça peut commencer comme ça. Alors c'est sûr que beaucoup de chrétiens se privent de bien des choses en n'écoutant pas des exhortations. Mais une chose est certaine, c'est une grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut rester à côté de lui. C'est pour ça qu'il faut aimer sa parole, afin que nos pensées, vous voyez, soient imprégnées de ces choses. C'est tellement important. Comment Dieu travaillera votre cœur si dans vos pensées, il n'y a pas toutes ces valeurs qui viennent du Seigneur? Je vais terminer. Cinquième parole. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Franchement, est-ce qu'il y a des endroits dangereux? Est-ce que dans la vie, il y a des moments dangereux? Oui, il y a des moments difficiles à traverser. La mort, ça peut être un moment difficile à traverser. Il y aura des vallées difficiles. L'apôtre Jean ne dit, David ne dit pas, oh, le Seigneur est mon berger, youpi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de problème, non. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire quand je traverse les épreuves de la vie, et même la mort, qui peut être une épreuve pour certains, eh bien, il est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là. Il y a des batailles, il y a des combats, il y a des jours mauvais, il y a des temps difficiles où l'ennemi attaque. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où l'ennemi attaque? Il n'y a pas des jours où vous vous sentez plus oppressé que d'autres? Sérieusement, il n'y a pas des moments où vous savez qu'une parole peut essayer de vous tuer, de vous détruire? Alors qu'un autre jour, ça ne vous fera absolument rien. Regardez David, combien de fois il dit « Mon œil se plaît à contempler mes ennemis ». Il n'a pas toujours dit ça, moi je vous le dis. Des fois, il fuyait l'ennemi. Vous voyez, comme quoi il y a des moments où on est dans la grâce, il y a des moments où on est vraiment dans le combat. Mais on doit être rassuré. Si vous savez qu'il est là, dans n'importe quelle vallée, dans n'importe quelle bénédiction, vous n'avez rien à craindre. Vous savez, je ne veux pas revenir à mon AVC, mais je me souviens de ce moment où je me suis réveillé. C'était en plein milieu de la journée. Je me rappelle, je n'y voyais presque pas. Mon AVC, je voyais juste une bande. Et je me souviens, il y avait Lucas qui était à côté, le pauvre, il était triste de me voir dans l'état où j'étais. Et en même temps, il y avait 6 ou 7 docteurs, infirmières, et il y en a une qui ont dit « Vite, vite, vite !» Il nous glisse entre les doigts. Mais moi, je pensais au psaume 23. Et parce que j'enseigne, je fais ça toute la journée. Vous voyez, j'ai passé presque toute la journée à préparer cette prédication. Bon, mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. C'est bien d'enseigner. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est bien d'enseigner? Mais je pense que c'est mieux de vivre ce qu'on enseigne. Et là, j'étais content. Et vous allez me prendre pour un fou, mais ça fait rien. Je vous promets devant Dieu que c'est vrai. Quand j'ai entendu, il nous glisse entre les doigts, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es avec moi et que je ne manquerai de rien. Mais je l'ai vécu. Puis je me suis rendormi, j'ai vu qu'il y avait des tuyaux partout, j'ai dit, bon, tu es toujours là. Mais franchement, je crois que si le Seigneur, j'ai des progrès à faire, si j'avais eu peur, je vous aurais dit, j'ai eu peur, c'est pas grave. Est-ce que ça aurait été grave que je vous dise, j'ai eu peur? Est-ce que ça a changé quelque chose en vérité? Est-ce que Dieu aurait été avec moi quand même? Ben bien sûr. Vous voyez, c'est pas. Moi, ça m'est égal. Que je vous dise, c'était dans la paix, et si je vous avais dit, ben j'étais dans l'angoisse, c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que de toute façon, le Seigneur, il nous délivre de nos angoisses. Le Seigneur, il nous fait faire des expériences. Il est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce qui est important, c'est d'être près de lui, d'être à portée de sa main. C'est important d'être à portée de la main de quelqu'un. Est-ce que c'est pas ça l'image? Sa main bénissante, sa main qui est là pour mettre son huile. Je termine, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Pour que Dieu puisse oindre notre tête de son huile, il faut être à portée de main. Et c'est pour ça que la Bible dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Sa main, est-ce qu'elle est posée sur vous? Hein? Est-ce qu'elle est posée sur vous? Est-ce que vous permettez à Dieu de vous guérir? Parce qu'il voit nos blessures, nos ecchymoses, nos luttes qui font qu'on a des plaies. À des moments, on a des plaies spirituelles. Est-ce que, Seigneur, pose ta main sur moi? On a un cantique. Jésus, pose sa main sur moi. On le chante souvent. Mais le Seigneur, il sait prendre de l'huile. Vous savez, l'huile nous parle d'onction. Tu oins d'huile ma tête. Cette huile, automatiquement, nous parle de son onction. Et l'onction nous parle de sa paix. L'onction nous parle de joie. Alors, quand même, bon, je crois qu'on est dans des temps difficiles, mais je crois aussi que Dieu donne sa joie. Est-ce qu'il en donne la joie? Il y a de quoi pleurer quand on voit certaines choses, mais je crois aussi qu'il y a la joie du Seigneur, cette vraie joie de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Est-ce que vous avez cette joie? Je crois qu'il faut être très équilibré. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, mais il y a, je crois, la joie du Seigneur. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ma coupe déborde. Je pensais à ce cantique quand on a chanté le chœur « Je t'exalte ». Je pense vraiment que quand Dieu nous touche, il vient un moment où ça déborde. Ça déborde. On a besoin de l'exprimer. Tu oins d'huile ma tête, dans mes pensées, parce que les pensées, dedans ça peut chauffer. La tête, elle a besoin d'être ointe. Seigneur, oins d'huile ma tête. Oins mes pensées. Afin que la louange déborde de mon cœur. Je crois que l'onction, c'est pas juste un peu. Je crois que l'onction, c'est pour que ça déborde. Pour que dans l'Église, ça puisse déborder. Seigneur, je veux que ça déborde. Je veux que ma louange s'extériorise. Parce que c'est vrai qu'on peut louer intérieurement. Est-ce qu'on peut louer intérieurement? Ben bien sûr. Peut-être même, il y a des gens qui ont fait que ça toute leur vie. Mais est-ce que quand même, à des moments donnés, ça n'a pas besoin de s'extérioriser? Demande à certaines personnes. C'était plus fort que moi. Je me suis mis en colère. Je n'ai pas pu faire autrement. Ben ça, c'est dans le charnel. Mais est-ce que dans le spirituel, ça peut se passer aussi? C'est-à-dire qu'on est tellement paisible que cette paix s'extériorise. On est tellement joyeux que cette joie s'extériorise. On est tellement reconnaissant que cette louange s'extériorise. Seigneur, merci, on ne peut pas ne pas parler. Ma coupe déborde. J'espère que le Seigneur est notre berger. Et que s'il n'est pas suffisamment, eh bien on va s'approcher de lui. Approchez-vous de lui. Et il s'approchera de vous. J'ai appris à être content. J'ai appris
à vivre dans l'humilité, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris ceci, j'ai appris la piété. Ça, ça prend la confiance. C'est pour ça qu'on étudie, tous ces versets, apprendre à faire confiance. On ferme les yeux quelques instants. Je ne sais pas où nous en sommes. Je ne sais pas si chacun d'entre nous, c'est extraordinaire, si tous nous pouvons dire ce soir, oui, c'est comme ça, l'Éternel est mon berger. Je peux le réciter comme cet acteur qui a été applaudi, mais ça ne sert à rien. Mais je peux vraiment l'avoir pour berger. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la religiosité, c'est la vérité. Le Seigneur du ciel et de la terre, celui qui a placé les étoiles dans le firmament, il est devenu mon bon berger. Il est bon. Est-ce que Dieu est votre berger? Est-ce que vous voulez apprendre à lui faire confiance? Vous qui avez des doutes, des craintes, qui avez peur du lendemain, vous qui vous demandez si ça va réussir, si vous aurez un boulot, si vous vous marierez, si vous aurez des enfants, mais vous croyez que Dieu, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Il m'accompagne. Je ne l'ai pas partagé, la septième pensée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous savez, Dieu a tout préparé dans le ciel. Il y a une maison pour vous dans le ciel. Je ne sais pas si vous le savez. Dans le ciel, vous avez une maison. C'est Jésus qui l'a dit. Pourquoi il a dit? Mais c'est pour continuer sur le psaume 23. Pour qu'on comprenne qu'on a besoin de communion. On a besoin de protection. On a besoin d'une maison. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va rentrer à la maison. Dieu nous a préparé une maison dans le ciel. Vous croyez que c'est vrai? C'est vrai. Comment ne pas lui faire confiance? Ne craignez rien. Si vous avez peur, Seigneur, délivre. Approchez-vous de lui. Son bâton vous rassurera. Parce qu'il va l'utiliser pour vous défendre. Seigneur Jésus, notre Père, oui, tu es le Créateur. Et nous croyons que tu as créé chaque étoile dans les cieux. Mais que tu nous as créés aussi chacun. Et que si les étoiles passeront, si le ciel passera, nous ne passerons pas. Donc nous savons que nous avons plus de valeur que le firmament dans le ciel. Seigneur, tu as donné ta vie sur la croix pour que nous soyons près de toi, pour que tu sois notre bon berger, pour que nous ayons la joie d'être tes brebis. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance, afin que nous puissions aider les autres, tourmentés, et parfois même des chrétiens, à leur tour à te faire confiance. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à marcher dans les sentiers de la justice, ta justice. Oui, tu nous as justifiés. Oui, nous sommes devenus tes enfants. Mon Dieu, que ton nom soit béni. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous dans le creux de ta main. Apprends-nous à te faire confiance. Amen.